15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le chercheur François Graner, co-auteur de L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda.
Bonjour à vous François Graner et bienvenue.
Merci, bonjour.
Co-auteur également avec Raphaël Doridan de ce livre évoqué par Mathieu. Vous êtes également le premier à avoir eu accès grâce au Conseil d'État et récemment aux archives sur la politique de la France au Rwanda du temps de François Mitterrand. Nous allons bien sûr parler de ce que vous avez découvert, de ce qui a conforté aussi ce que vous et d'autres affirmez depuis des années sur les génocides des Tutsis. Mais tout d'abord, Emmanuel Macron est sur place à Kigali. Il va prononcer dans quelques heures un discours très attendu. Il voudra forcément pacifier, mais jusqu'où François Graner va-t-il ou peut-il aller sur le rôle de la France, selon vous ?
Alors, je pense de toute façon, son discours sera émouvant et sera important. Et ça, rien que ça, déjà, ça va le grandir, à mon avis, et aussi grandir le pays. C'est important pour les rescapés, pour les victimes. De toute façon, quoi qu'ils disent, je pense que ça sera important. Et voilà. Et donc, moi, j'ai une pensée pour tout le monde, et en particulier pour les enfants qui ont été tués pour le fait des Tutsis, hein, puisque c'est ça que ça veut dire le génocide des Tutsis.
On a entendu dans le journal beaucoup de témoignages, y compris là sur Europe 1. Et ma question est précise, François Graner, parce que chaque mot va être pesé ou sous-pesé. Est-ce que le président français va aller vers une reconnaissance, mais pas de repentance, pas de demande de pardon au nom de la France officielle ?
Alors, je pense que au-delà des mots, il y a un débat actuellement sur les mots qu'il va utiliser. Ça lui appartient à lui, on verra bien. Moi, ce que je regarderai attentivement, c'est le contenu politique de ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est pas la surface qui m'intéresse, c'est est-ce que effectivement, il va reconnaître les choses suffisamment pour qu'on puisse vraiment dire plus jamais ça et en tirer les leçons. Ce qui serait ennuyeux, c'est si c'était juste un raccommodage entre États sur le dos de la justice et de la réalité.
Mais pour arriver à ce contenu politique, évidemment, au fond, il faut les mots dans le rapport du Clerc remis sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Il est question, François Graner, de responsabilité et pas de complicité. Or, vous, par exemple, vous utilisez le mot complicité qui a une connotation politique et juridique importante. Pourquoi ?
Alors, je pense que d'abord, avant de dire qu'est-ce qu'il faut reconnaître, il faut comprendre les faits déjà. Les faits sont relativement simple du côté de l'action de la France. La France cherche à avoir une zone d'influence en Afrique et ça a amené tous les présidents successifs, y compris le président Macron, à soutenir des dictateurs. Et le Rwanda, c'est le cas extrême de cette politique, où les décideurs français ont soutenu les extrémistes hutus avant, pendant et après le génocide des Tutsis qu'ils ont commis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une intention génocidaire chez Mitterrand et Hubert Védrine, Alain Juppé, ou l'amiral Jacques Langsade, le général Quesnot, le général Huchon. Chez tous ces gens-là, on est bien d'accord, et je suis d'accord avec le rapport du Clerc, c'est une de ses conclusions, il n'y a pas d'intention de commettre le génocide des Tutsis.
Ça, c'est important. Donc, vous dites qu'il n'y a pas d'intention génocidaire, c'est-à-dire que ce que vous avez consulté dans les archives ne le démontre pas.
Et à aucun moment, ni dans les témoignages, ni dans les archives, je n'ai vu de trace que l'un de ces décideurs ait eu une quelconque volonté d'exterminer les Tutsis.
Donc la France ne s'est pas associée à une entreprise génocidaire et donc on ne peut pas parler de complicité en tant que telle.
Alors, c'est là qu'il faut être, il faut bien être précis. Ils ont, bien qu'ils n'aient pas eu l'intention eux-mêmes d'exterminer les Tutsis, ils ont eu, et il a suffi de quelques personnes, donc pour entraîner la France dans une politique de soutien actif et bien informé aux extrémistes hutus, je dis bien informé, c'est-à-dire qu'en sachant en temps réel la préparation du génocide, l'exécution du génocide et le soutien a même continué après. Et ce soutien, il a permis aux extrémistes hutus de prendre et de garder le pouvoir et donc c'est de commettre le génocide. Donc, c'est un soutien parce qu'il y a eu la formation du gouvernement, sa reconnaissance et même jusqu'à permettre leur impunité et leur fuite.
Donc attendez, soutien direct et substantiel, mais pourquoi je vous pose la question ? Parce que là, nous sommes derrière un micro, mais devant les tribunaux, la complicité à une qualification juridique essentielle.
Et justement, elle est basée sur trois points, et c'est ça que je dis, les trois sont réunis ici. Le soutien actif, en connaissance de cause et avec un effet sur la commission du crime. Et c'est ces trois points qui sont nécessaires en droit français et international pour parler de complicité. Le fait d'avoir l'intention, c'est quelque chose en plus qui n'est pas toujours nécessaire, qui est parfois retenu pour la complicité, mais pas toujours. Et je rappelle par exemple l'exemple le plus célèbre de Maurice Papon, qui a été condamné pour complicité de crime contre l'humanité, alors même qu'il a été montré qu'il n'avait pas l'intention de l'extermination des Juifs.
Et pourtant, François Graner, pourtant la justice française, et soyons précis, estime que l'armée française sur le terrain était en quelque sorte autonome. Autonome lorsque elle a abandonné les Tutsis des colonnes de Bicécéro au Hutu, ce sont les juges qui le disent.
Alors, c'est intéressant de voir que le rapport du Clerc et la justice française, actuellement, ont tous les deux cherché un moyen de ne pas utiliser le mot complicité.
C'est voulu ou alors c'est l'enquête qui aboutit à cela.
Alors je ne sais pas, mais le fait qu'ils aient utilisé tous les deux des arguments différents est intéressant. Parce que le rapport Duclert, lui, il dit il n'y a pas d'intention génocidaire, donc il n'y a pas de complicité. C'est ce raisonnement qui est faux, puisqu'il peut y avoir complicité, même sans intention génocidaire. La justice utilise un autre argument. Elle dit les militaires français sur le terrain étaient autonomes, et donc ça ne résulte pas d'une décision des décideurs français de Paris.
Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas eu de contact direct, d'ordre en temps réel donné, et que l'armée, de manière autonome, se soit débrouillée, malheureusement, pour les abandonner.
Les militaires de l'opération turquoise sur le terrain étaient en contact permanent, régulier avec leur hiérarchie à Paris. Et heureusement, oui, tout à fait. Et de toute façon, les témoignages aussi le confirment. C'est-à-dire que les militaires de terrain disent bien qu'ils étaient en contact avec leur hiérarchie. L'amiral Langsad, chef d'état-major de l'armée, dit aussi que toute l'armée était sous son contrôle, et ce qui est normal. Et de ce point de vue-là, dans toute cette politique française, dans tout ce qu'on reproche actuellement à la politique française, il n'y a aucun moment où ce sont des fautes professionnelles, des dysfonctionnements. Le système a parfaitement fonctionné, les ordres ont été... La politique a été menée, le cap a été fixé par Mitterrand et par ses proches, et les ordres ont été exécutés
ponctuellement. Mais dans quelle intention, M. Granard ? Parce que la France soutient le régime, car c'est une zone d'influence française. Elle soutient le régime pour cette raison, d'abord.
Oui, tout à fait. Pas pour l'extermination des Tutsis. Mais ce qu'on voit bien dans les archives, c'est que tout le reste passe donc après, et qu'en particulier le génocide, soit n'est pas perçu, soit est perçu comme beaucoup moins important que le fait de préserver un endroit garde-pied au Rwanda.
C'est-à-dire qu'il est possible que la France ait voulu d'abord et surtout conserver sa zone d'influence française et sans avoir conscience de la gravité, de la profondeur de ce génocide.
La conscience de la gravité, elle y est, mais ce que je parle, c'est de dissimulation. Par exemple, on voit souvent des textes où il y a le mot génocide qui sont repris ensuite, où le mot génocide est enlevé et remplacé par massacre. Voilà.
Pourquoi c'est important, ce dont nous parlons, et les mots ? Parce qu'évidemment, il y a le rôle du secrétaire général Hubert Védrine, il y a les trois militaires autour du président que vous avez cité, du président François Mitterrand. Vous avez recoupé cela avec les archives et vous dites que ça remonte, d'ailleurs c'est la Ve République, au président.
J'ai parlé aussi d'Alain Juppé, qui est ministre des Affaires étrangères. Et donc il y a un petit cercle de décideurs. Effectivement, ce qui est important de se dire, c'est pourquoi le président Mitterrand a pu, et ses proches, ont pu s'entêter dans cette politique, c'est-à-dire de maintenir ce cap fixé, alors même que des très nombreuses alertes
sont remontées. Mais d'où venaient-elles ? Est-ce qu'elles étaient crédibles, légitimes, pour pouvoir jouer et infléchir la position du président
Mitterrand ?
Avant,
pendant et après le génocide, il y en a eu beaucoup. Il y a eu de tout. Il y a eu en interne du Parti Socialiste, des militaires chargés de la coopération. En direct sur France 2, au journal de 20h, le président de survie, disant on peut encore arrêter ce génocide en préparation si on arrête notre soutien au régime. Il y a eu beaucoup, on en retrouve beaucoup dans les archives, des alertes de tous bords. Ce qui est important, c'est de voir qu'elles n'ont pas été suivies de fait. Donc la constitution de la Ve République permet au président de s'asseoir sur tous les garde-fous.
Et aujourd'hui,
toutes les questions des parlementaires aussi. Aucune n'a été suivie des faits, alors que certaines étaient très critiques.
François Granard, c'est très important. Vous êtes aussi, je vais le préciser, membre de l'association Survie, qui lutte ou qui veille finalement à limiter l'influence, ou en tous les cas à aller contre le néocolonialisme. Moi, je voudrais vous parler par exemple d'un pays, au Mali. Au Mali, nos soldats y sont pour lutter contre le djihadisme, pour maintenir la stabilité d'État qui ressemble, et on le voit encore là, à des châteaux de cartes. Est-ce que ça, pour vous, c'est une sorte de néocolonialisme déguisé ?
Alors, globalement, le fait que la France fasse une ingérence dans beaucoup de pays d'Afrique et maintienne des troupes, oui, ça fait partie de l'ensemble de ce qu'on appelle la France-Afrique, qui sont des réseaux interconnectés à la fois culturels, diplomatiques, économiques et militaires aussi. Et le Mali, effectivement, c'est un cas emblématique.
Mais vous vous rendez compte que c'est pour lutter contre le djihadisme, pour leur sécurité et notre sécurité.
Alors, est-ce que la France est destinée à être le gendarme partout ailleurs ? À quel titre ? À quel nom ?
Quand les autres pays ne le veulent pas, qui doit le faire ?
Alors, au Rwanda, c'est l'argument qui a été invoqué. Voilà. Et le résultat, c'est que la France s'est mise hors d'un cadre multinational, a même fait une opération dont elle n'a prévenu, l'opération Amaryllis, dont elle n'a prévenu l'ONU qu'après son déclenchement. Elle voulait être sûre que l'ONU n'aurait rien à dire. Et donc le fait de se placer hors du cadre international est, à mon avis, toujours un problème. Et On voit bien que la France-Afrique continue, on voit bien le dernier déplacement de Macron au Tchad.
Mais qu'est-ce qui prime ? Est-ce que c'est un moment, quand il y a eu par exemple la décision d'intervenir au Mali, est-ce que c'est la sécurité avant tout ? Et parce qu'il y avait une menace imminente, ou est-ce que, comme vous dites, il faut prendre du recul et se dire c'est une forme d'ingérence, on attend de réfléchir.
La menace existait, mais le fait qu'il y ait eu une menace imminente avec une colonne de pick-up fonçant sur Bamako, ça a été largement fantasmé et par les communicants de l'Élysée.
Ça, c'est ce que vous dites. Il y avait une menace quand même circonstanciée sur le terrain, non ?
Oui, mais la fameuse colonne de pick-up fonçant sur Bamako, ça, c'était largement une invention des communicants.
Qui le dit ? Dit que c'était fantasmé ?
La presse l'a quand même largement révélé.
Oui, la presse, mais peut-être que des gendarmes ou
même les militaires. L'opération était déjà prévue avant. L'opération était déjà prévue et planifiée avant, et il a fallu à un moment trouver un déclencheur. Mais ceci dit, dans la menace djihadiste, la menace est réelle au Mali, mais simplement le fonctionnement à dominante militaire est une impasse. Le fait qu'il n'y ait pas eu, malgré la constitution. Et je dirais que c'est une des très rares leçons qui a été tirée du Rwanda, c'est qu'il y a eu, normalement maintenant il doit y avoir un débat, même sans vote au Parlement, sur les opérations extérieures. Et ça c'était un gros problème sur cette opération, sur toutes les opérations au Sahel. Mais donc de toute façon, le fait d'avoir une politique où à dominante militaire et sécuritaire est clairement une impasse, et ça c'est un exemple les plus emblématiques, mais ce qu'on voit aussi sur les élections au Congo ou sur le dernier déplacement de Macron au Tchad montre que la France-Afrique, elle est toujours très très vivante. Et nous, ce qu'on dit,
Que le président s'est rendu aux obsèques d'Idriss Déby et parce que le Tchad est un allié précieux pour la France dans le combat contre les groupes djihadistes, que c'est la France-Afrique quand même.
Mais est-ce que c'est le fait de reconnaître, d'adouber en pratique un dauphin,
France ne doit pas afficher son soutien à un pays allié et ami ?
Est-ce que la France doit peser autant qu'elle le fait? On me dit souvent, la France, par exemple, au Rwanda, elle avait le droit de protéger ses ressortissants. Est-ce que vous imaginez que l'armée turque serait autorisée à venir protéger ses ressortissants en France au cas où ils sont menacés?
À l'inverse, est-ce que vous imaginez qu'on ne protégerait pas nos ressortissants là-bas?
En tout cas, pas de cette façon-là.
En tout cas, c'est une vraie question. Et on va peser et sous-peser les mots du président Macron tout à l'heure. Et en particulier vous, François Garner, évidemment, ce discours est très attendu.
Bien sûr.
Merci d'avoir été notre invité. Je précise le titre de ce livre, L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda, avec Raphaël Doridan. Merci François Garner d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.